Zéro. Eh bien, écoutez, bienvenue ici pour cette nouvelle édition des cartes blanches organisées conjointement avec l'Institut d'astrophysique de Paris et l'Union rationaliste. C'est un plaisir que de retrouver cette salle. Merci pour la bienveillance de l'Institut qui nous offre toutes les facilités pour que ces cartes blanches puissent avoir lieu. Et merci aussi pour l'ouverture d'esprit du directeur de l'Institut d'astrophysique, Patrick Peter, qui est là présent ce soir également. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Et d'autant que, en fait, vous allez nous parler de l'école. Et je crois que l'Institut d'astrophysique de Paris n'existerait pas non plus si... donc, on doit remercier l'école, parce que c'est à l'école que les fondamentaux sont transmis, que le sens de la République, l'esprit critique, pas seulement les connaissances, sont effectivement une des missions principales de l'école. Et donc vous allez nous parler de toutes ces difficultés, facilités que nos enfants, puisqu'il s'agit surtout des mineurs, hein, dont vous allez parler ce soir, rencontrent à l'école, compte tenu d'ailleurs du fait que nous vivons dans une république, que cette république est effectivement réunie des religions différentes, des origines ethniques différentes, des langues différentes, des sensibilités différentes, des hommes et des femmes. Voilà. Alors, vous êtes Stéphanie Hennette-Vaucher. Merci d'avoir accepté nos invitations. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre, donc votre intervention va effectivement s'inscrire à l'aune du droit, et c'est sous cet angle-là vous allez aborder ce sujet. Vous dirigez le Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, le CREDOF, et votre mission principale, ou votre activité principale, mais pas la seule, est d'intervenir donc pour alerter sur les risques des mesures d'exception dès lors qu'elles sont intégrées dans le droit commun. Si j'ai bien compris, et d'ailleurs j'ai écouté plusieurs reprises les conférences que vous avez données sur ce sujet, il m'a bien semblé qu'il y a eu depuis quelques années suffisamment d'événements qui ont obligé les pouvoirs publics à prendre des mesures et que ces mesures, effectivement, mesures d'exception ou pas, ont alerté bon nombre de nos concitoyens et nous-mêmes sur la notion de liberté. Et ce qui veut dire que vous êtes soucieuse du respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme en France. Donc c'est un peu votre viatique et ce que vous exprimez d'une manière forte dans la présentation qu'on peut trouver, en particulier sur Wikipédia. J'ai noté vos récentes publications. Quand je dis récentes, c'est vraiment l'année dernière, 2023. Donc une publication qui est un collectif, si j'ai bien compris, c'est un travail...
J'attends de savoir lequel.
Oui, c'est laïcité.
Non, ça c'est...
C'est pas celui-là ?
Tout seul.
Alors, tout seul, très bien, 2023, et récemment, l'école et la République, deux points, la nouvelle laïcité scolaire. Je croyais que vous l'aviez aussi publié tout seul.
Absolument.
Dans les deux, d'accord. Donc, j'ai cru, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vous remercie. C'est une discussion qui est intéressante dans la mesure où elle nous interpelle tous les jours, pas seulement à l'école. Et donc, je vous laisse la parole pour ne pas entamer sur votre temps. Merci.
Merci. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction et surtout merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très contente de venir parler d'un thème qui, évidemment, m'est cher puisque, comme ça vient d'être dit, j'y ai consacré depuis en fait, de nombreuses années, de nombreuses heures. Et puis, je suis surtout très contente de la perspective d'échanger avec vous. Donc, je vais parler à un certain temps qui m'a été alloué généreusement, mais effectivement, je vais essayer quand même de ne pas être trop longue pour qu'on puisse échanger. Alors, je suis venue ce soir pour parler effectivement comme juriste qui s'intéresse aux questions de laïcité, pour parler spécifiquement de l'école. Pourquoi l'école ? Parce que, évidemment, l'école, on le sait tous de manière plus ou moins diffuse, est très fortement associée à la notion de laïcité. Ça vient d'être rappelé, l'école est le lieu de l'éducation à la citoyenneté, est une institution phare de la République. Et bien au-delà, l'école est aussi en lien avec l'ensemble ou toute une série de valeurs républicaines dont la laïcité n'est qu'une, mais on pourrait parler aussi d'égalité, de citoyenneté et de beaucoup d'autres notions dont on donne mission à l'école d'être vraiment un des lieux où elles se transmettent et ce qui fait vraiment de l'éducation une mission républicaine très importante. Donc je vais parler de l'école et de laïcité, jusque-là rien n'est très original, mais en parlant d'école, je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt qui s'attache à parler non seulement de l'école publique, c'est-à-dire celle qu'on a peut-être spontanément en tête quand on pense laïcité et école, mais parler aussi de l'école privée, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. En deux mots, on peut dire simplement que l'école privée, c'est pas une réalité marginale dans le pays, hein. Il y a à peu près 18% des élèves en âge scolaire qui sont scolarisés à l'école privée, et il y a d'autres facteurs qui témoignent de son importance, mais aussi parler de l'école privée, pas seulement parce que c'est important numériquement en termes de nombre d'élèves ou de part du budget de la nation qui soutient l'école privée, mais aussi parce que, comme je vais essayer de vous l'expliquer, je crois qu'en regardant ce qui se passe à l'école privée, quel est le statut de l'école privée, comment l'école privée s'articule avec justement les principes de laïcité, d'égalité, etc. Je crois qu'on apprend beaucoup de choses en réalité sur nos principes républicains. Donc voilà un peu pour le thème de l'intervention de ce soir, donc l'école un peu comme laboratoire pour essayer de comprendre la laïcité, à la fois la signification du principe et puis peut-être certaines des tensions, des discussions récurrentes dont vous savez bien qu'elles nourrissent notre débat public. Alors, je vais commencer avec l'école de manière générique pour simplement dire que, évidemment, si je vous dis que l'école, historiquement, a été le berceau de la laïcité, je ne dis pas quelque chose qui va vous bouleverser, probablement. On associe, comme je le disais il y a un instant, assez facilement la notion d'école, enfin, l'institution scolaire avec le principe de laïcité. Néanmoins, deux petites choses qui me paraissent intéressantes sur cette association qui nous vient assez spontanément à l'esprit. D'abord, elle est assez récente. En réalité, associer école et laïcité, penser tout de suite école républicaine, école laïque, quand on parle d'école, c'est finalement quelque chose de relativement récent. Sur l'histoire longue, en réalité, en France, c'est l'Église catholique qui a longtemps eu la mainmise sur l'éducation. Ça n'est en vérité que depuis à peu près le début du 19e siècle, le politiste Yves Deloye identifie ça au tournant des années 1820-1830, que l'école, comme il le dit, devient une affaire d'État. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là que véritablement, à la fois par la croissance du budget de l'instruction publique, par la construction effective d'écoles dans un grand nombre de communes du territoire, c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'école va vraiment devenir un sujet de préoccupation important pour la puissance publique. Néanmoins, là on est au début du 19e siècle, on n'est pas encore dans l'école laïque, c'est-à-dire que même si l'État s'implique, l'école, l'éducation, demeure un peu une sorte de coproduction entre l'État et l'Église catholique qui continue d'avoir un rôle très important. De nombreux maîtres de l'instruction publique sont des religieux, et donc on a vraiment encore quelque chose comme une collaboration, une coproduction entre l'État et l'Église catholique en la matière. Et de ce point de vue, la rupture, c'est, vous le savez bien, les grandes lois laïques de la fin du XVIIIe siècle, la loi Ferry de 1882, la loi Goblet de 1886, qui va interdire aux religieux d'enseigner, et toute une série d'autres textes, hein, il y a une quinzaine de textes entre la fin des années 1870 et 1905, qui vont vraiment laïciser l'école, et c'est évidemment un moment très très important dans l'histoire du principe de laïcité en général, puisqu'il va culminer ce mouvement avec la loi de 1905, la loi du 9 décembre 1905, à laquelle on associe aujourd'hui le régime français de laïcité, qui va prononcer la séparation des Églises et de l'État. Donc il y a évidemment, à la fin du 19e siècle, ce moment très important de laïcisation de l'école, mais c'est donc relativement récent, comme je le disais. C'est aussi un mouvement qui est relativement contenu. Alors ce n'est pas du tout pour en minimiser l'importance, ni historique, ni social, ni politique, mais qui est relativement contenu dans le sens où quand on parle des lois laïques de la fin du XIXe siècle, on parle en réalité de lois qui ont laïcisé les programmes, qui ont laïcisé le corps enseignant, je le disais tout à l'heure, avec la loi Goblet qui interdit désormais aux religieux d'enseigner, et avec des lois qui ont laïcisé les bâtiments. Et vous avez ici une illustration du retrait des crucifix, hein, puisque, évidemment, à la faveur de ces lois de laïcité scolaire, il a fallu, dans les écoles comme dans d'autres institutions publiques, les hôpitaux par exemple, les tribunaux, retirer les signes religieux. Mais donc c'est un mouvement relativement contenu parce que la laïcité scolaire dont on parle, si on prend appui sur ces lois de la fin du XIXe siècle, c'est vraiment la neutralité des programmes, des enseignants et des bâtiments. En d'autres termes, on ne parle pas du tout à cette époque de laïcité concernant les élèves ou d'obligation liée au principe de laïcité qui pèserait sur les élèves. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cette association historique très profonde entre la laïcité et l'école. Et donc, évidemment, dire que l'école est le berceau de la laïcité, encore une fois, rien de très bouleversant. De la même manière, vous ne serez pas bouleversé si je vous dis que aujourd'hui, l'école continue d'être un des lieux phares du débat public sur la laïcité. C'est aussi une très grande banalité. Vous avez tous à l'esprit les rebondissements incessants de la question de la laïcité scolaire. Alors, si on se place dans l'histoire relativement courte, on a, j'ai mis sur la diapositive deux marqueurs importants, me semble-t-il. Depuis la rentrée de septembre 1989, où dans le collège Gabriel Havès de Creil, Fatima et Leïla Achaboun et Samira Saïdani ont été exclues du collège parce qu'elles refusaient de retirer leur voile, jusqu'à la note de service publiée par l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, le 31 août 2023, qui interdisait le port de l'abaya et du camis à l'école. Vous voyez bien que voilà, sur toute cette période, fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, la laïcité scolaire continue d'être un sujet très récurrent, très présent dans le débat public, qui suscite de nombreuses interventions de l'autorité publique. Alors, il y a donc une sorte de permanence du débat sur la laïcité à l'école. C'est un débat qui est ininterrompu. Pour autant, ça n'est pas un débat qui est linéaire. Bien au contraire, il a connu des évolutions très profondes. Alors, je me resitue ici avec cette troisième diapositive à la fin des années 1980, puisque après que les trois jeunes filles que je viens de mentionner ont été exclues du collège Gabriel Havès à Creil pour avoir refusé de retirer leur voile, la question de la laïcité scolaire est entrée avec une très grande force dans le débat public pour quasiment ne plus en disparaître jusqu'à aujourd'hui. Une des manifestations de cette entrée assez fracassante dans le débat public, c'est la couverture du Nouvel Observateur de novembre 1989 que vous avez ici, avec une tribune signée par, comme ça apparaît, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay et Catherine Kinsler, qui s'appelle « Prof, ne capitulons pas » et qui emploie des mots très forts, puisque cette tribune fait référence à un Munich de l'école républicaine qui adviendrait ou serait advenu si les trois jeunes femmes dont je parlais il y a un instant étaient admises à rester au collège avec le voile islamique qu'elles souhaitent porter. Alors, après cette entrée fracassante dans le débat public, il y a eu un moment juridiquement très important de cette question de la laïcité scolaire, de cette question du voile à l'école. Les autorités juridiques les plus éminentes ont été mobilisées. Le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, a demandé au Conseil d'État, qui est, comme son nom l'indique, un conseiller de l'action publique, mais qui est aussi le juge suprême en matière administrative, de dire si le principe de laïcité devait juridiquement être compris comme autorisant ou interdisant le port par, en l'occurrence, de jeunes femmes musulmanes, du voile à l'école. Et la réponse juridique a été assez claire, puisque vous l'avez sous les yeux, le Conseil d'État, dans son avis de novembre 1989, parle d'une liberté reconnue aux élèves qui comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires. Et il est bien précisé que ce droit des élèves à manifester leurs croyances religieuses à l'école n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité. Donc la position des plus grands acteurs du droit à la fin des années 80, c'est bien de dire que le principe de laïcité ne s'oppose pas à la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l'école. Et en fait, ça renvoie à ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire que le principe de laïcité tel qu'il s'est construit dans le milieu scolaire à la fin du XIXe siècle est relativement contenu en cela qu'il concerne les programmes, les bâtiments, les enseignants, mais pas les élèves. Le principe de laïcité, dans sa version historique fin du XIXe siècle, ne dit rien des élèves, et on est à peu près au même point, un siècle plus tard, en 1989, comme l'exprime le Conseil d'État. Ça, c'est la position que le Conseil d'État a en novembre 1989, lorsqu'il est interrogé par le Premier ministre. Mais tout au long de la décennie des années 90, le Conseil d'État va être saisi de procès, de litiges juridiques opposant des élèves, leurs familles, les institutions scolaires, le ministre et les différentes autorités scolaires, sur la question de savoir si une école peut mettre dans son règlement intérieur que le port de signes religieux est interdit, ou sur le point de savoir si telle ou telle sanction disciplinaire prise à l'encontre d'élèves qui manifesteraient leurs croyances religieuses sont acceptables ou pas. Et le Conseil d'État, pendant toutes les années 90, pendant la première moitié des années 2000, va rester sur la même position. Et c'est la deuxième partie de la diapositive. Je vous ai mis un arrêt, si vous êtes férus de détails juridiques, un arrêt qui s'appelle l'arrêt Kerouac, qui date du début des années 90, mais il y en a des dizaines et des dizaines, où le Conseil d'État répète que le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité. Donc ça, c'est un premier temps de la réponse juridique à cette entrée de la question de la laïcité scolaire dans le débat public, c'est de dire que le principe de laïcité ne s'oppose pas au port par les élèves de signes religieux. Alors évidemment, il y a un second temps, puisque vous le savez bien, la situation n'est plus du tout la même, puisque dans le sillage de cette mobilisation qu'on trouve dans le Nouvel Observateur, mais qui va évidemment recevoir un écho dans beaucoup d'autres cercles politiques et sociaux, les mobilisations en vue d'une modification du droit, d'une modification des règles juridiques, vont être incessantes, et elles vont culminer avec la loi du 15 mars 2004, loi que vous connaissez sans en connaître peut-être le texte précis, c'est la loi qui interdit le port par les élèves de signes religieux à l'école. La phrase exacte, vous l'avez sur la diapositive, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Donc, on pourra revenir, si vous le souhaitez, dans tout le parcours qui a jalonné l'écart entre les positions initiales du Conseil d'État à la fin des années 80 et la loi de 2004. Il y a de très nombreuses mobilisations, des rapports officiels, des commissions d'experts, etc., qui sont mobilisées. Toujours est-il que depuis 2004, la règle est désormais celle-ci, étant entendu qu'on est vraiment dans une redéfinition du principe de laïcité, puisque le titre de la loi du 15 mars 2004, c'est la loi qui, en application du principe de laïcité, interdit aux élèves, etc. Donc on a bien une nouvelle signification qui est prêtée au principe, puisque désormais, la laïcité interdit aux élèves de porter des signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse. Alors, cette loi, elle date du 15 mars 2004, cette nouvelle règle, cette nouvelle compréhension du principe de laïcité date du 15 mars 2004, c'est-à-dire qu'elle a 20 ans, et 20 ans, c'est un bon âge pour commencer à essayer de faire un bilan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur 20 ans d'application de la loi de 2004? Alors, la manière dont je présente les choses dans le livre sur l'école, c'est de suggérer que 20 ans d'application révèlent qu'il y a à peu près trois grands défis pour ce nouveau régime de laïcité scolaire. Un premier défi, c'est le défi de l'égalité. Défi de l'égalité parce que, évidemment, comme ça ressort de manière très fréquente dans le débat public et comme c'est réapparu encore en août 2023 avec la circulaire de Gabriel Attal sur la baïa, la chose qui est assez difficilement contestable, c'est que les groupes sociaux qui essuient le plus les rigueurs de ce nouveau régime de laïcité scolaire, eh bien, c'est les élèves musulmans, et particulièrement, parmi les élèves musulmans, les élèves musulmanes, puisque c'est le voile, véritablement, qui semble être, de manière prépondérante, dans le viseur des autorités scolaires en charge de l'application du régime de 2004, ainsi que dans la réalité contentieuse à laquelle ça peut donner lieu lorsqu'il y a des conflits entre l'autorité scolaire et les élèves ou les familles. Donc évidemment, ça c'est une première question qui est évidemment une question très importante, qui est de savoir si et dans quelle mesure ce régime de laïcité scolaire est capable, soit en principe, soit dans son application principe, dans son application pratique, de respecter un autre grand principe républicain, qu'est le principe de l'égalité. Un deuxième défi dont on peut parler, c'est celui que j'appelle le défi de la sémiotique. Alors la sémiotique, c'est l'étude les processus d'interprétation des signes, de fabrication de la signification prêtée aux signes. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant dans la loi de 2004, mais on pourrait parler d'autres textes, c'est-à-dire dans des règles juridiques qui entendent saisir des signes ou des tenues par lesquelles les élèves, ici, expriment des croyances religieuses. C'est en réalité, sur le plan de la méthode, très compliqué de formuler des règles en ces termes, c'est-à-dire en disant on va interdire des signes ou des tenues par lesquelles ceux qui les portent entendent exprimer des croyances religieuses, politiques, philosophiques, etc. Pourquoi ? Parce que ça pose différentes questions. D'abord, quelle est la compétence de l'autorité publique pour définir des signes comme étant des signes religieux ? Comment est-ce qu'on peut dire qu'un signe est religieux ? Alors ici, la loi de 2004 s'accompagne d'une circulaire d'interprétation, c'est très souvent le cas pour les textes législatifs, et cette circulaire d'interprétation, elle dit que elle donne des exemples de signes qui ont en eux-mêmes une signification religieuse, c'est le voile, la kippa et la croix de grande taille. Donc là, ce seraient des signes dont il est possible de considérer qu'en eux-mêmes, leur port signale une contravention à l'interdiction législative de 2004. Mais en réalité, la loi de 2004, elle interdit une autre catégorie de signes, c'est-à-dire pas seulement les signes qui en eux-mêmes communique la manifestation d'une croyance religieuse, mais aussi les signes qui acquièrent cette caractéristique à raison du comportement de l'élève. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de cas dans lesquels les autorités scolaires et le juge vont accepter que certains signes, je pense à un bandana, je pense à un bonnet en laine, je pense à une jupe longue, ces signes soient qualifiés de signes interdits par la loi de 2004, non pas bien sûr parce que ce sont des signes qui en eux-mêmes manifestent des croyances religieuses, un bandana a priori ne manifeste pas directement des croyances religieuses, mais à cause du comportement de l'élève, les autorités scolaires, suivies par le juge, vont accepter que un bandana, une jupe, un bonnet, puisse être considéré comme un signe entrant en contravention avec la loi de 2004. Et donc là, vous voyez bien, encore une fois, la difficulté de méthode. Parce que comment exactement s'assurer, et c'est évidemment un enjeu très important sur le plan juridique, si on veut que tous les élèves de l'école publique soient traités de manière égalitaire, par exemple, comment s'assurer qu'il n'y a pas d'arbitraire, d'inégalité, d'évaluation discordante entre telle et telle école, entre tel et tel élève ? Et sur la base de quels critères ? Comment contrôler les critères qui font que le bandana de tel élève va être interprété par les autorités scolaires comme la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse, tandis que le bandana de tel autre élève ne recevra pas cette qualification ? Donc on a là un défi, me semble-t-il, qui est très grand, qui est lié tout simplement aux questions de méthode soulevées par l'ambition du législateur de pouvoir isoler des signes qui manifestent ostensiblement leurs croyances religieuses. Alors, Vous m'entendez, et peut-être vous demandez-vous pourquoi diable il y a les photos qui figurent sur la diapositive qui est derrière, mais c'est simplement parce que il me semble que ce sont deux photos qui illustrent bien en fait la dimension difficulté de méthode que j'essaye de décrire. La première photo, celle qui est pour vous sur la gauche, c'est la photo qui a accompagné. C'est la photo, en fait, de la campagne officielle de communication du gouvernement français suite à la loi d'octobre 2010 qui a interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, c'est-à-dire, en réalité, qui a interdit le port du voile intégral, le niqab. Et le slogan adopté par cette campagne tout à fait officielle de communication du gouvernement, c'est « La République se vit à visage découvert ». Et donc, effectivement, vous vous rappellerez peut-être qu'au moment des débats autour de la loi interdisant le port du niqab, il y a eu effectivement un grand engouement dans les discours politiques, et y compris au Parlement, autour de l'idée que la visibilité du visage, le dévoilement du visage, était tout à fait essentiel pour préserver les conditions de la vie en société, pour préserver les conditions du vivre ensemble, de sorte que, véritablement, le fait d'avoir le visage découvert est devenu une sorte de comportement républicain, comme l'exprime le slogan. Et 10 ans plus tard, à la faveur de la pandémie mondiale de Covid, où, en France comme ailleurs, il a fallu se voiler le visage, on voit bien que, en réalité, un geste presque en miroir, opposé, le voilement, enfin la dissimulation du visage par le masque chirurgical, est devenu le comportement citoyen par excellence. Alors, je ne veux pas faire d'analogie hasardeuse entre le niqab et le masque chirurgical, ce n'est pas du tout mon propos. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment la transformation, justement, du discours sur ce qu'est un comportement républicain, et qui me semble pouvoir éclairer cette difficulté de méthode à laquelle je faisais référence précédemment, qui, difficulté de méthode ou évolution dans le discours, qui me paraît particulièrement saisie, peut-être au-delà du masque chirurgical lui-même, par le fait que sur celui qui est ici porté par le chef de l'État, il y a le drapeau qui lui-même communique d'emblée, peut-être pas à la République, mais en tout cas la nation, et le fait que c'est ici un geste citoyen qu'il s'agit d'ériger en modèle. Le troisième défi dont on peut parler au bout de 20 ans d'application de la loi de 2004, c'est ce que j'appelle le défi de l'analyse spatiale, puisque en réalité, la loi de 2004, j'ai remis la formulation exacte ici sur la diapositive, elle vise les élèves. C'est-à-dire que la loi de 2004, il faut bien comprendre qu'on a un principe général de liberté dans le droit français, qui inclut la liberté religieuse, et la loi de 2004, c'est une loi qui vient par exception interdire, dans certaines configurations, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leurs croyances religieuses. Et donc, comme toute restriction, elle doit être interprétée strictement. Or, qui est visé par la loi de 2004 ? C'est vraiment les élèves. Ils sont visés en tant qu'ils sont élèves, en tant que, statistiquement, ils sont mineurs. Il y a des exceptions, bien sûr, mais la plupart des élèves des écoles, collèges et lycées sont mineurs. Et il y a une logique, ici, de protection au principe de la loi de 2004. Et donc, on va vraiment justifier cette interdiction pour les élèves qui sont saisis comme élèves. Ça, c'est la lettre de la loi de 2004. Mais au bout de 20 ans d'application, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de glissements dans l'interprétation qui en est faite, puisque bien souvent, cette loi de 2004, il y est fait référence aujourd'hui comme une loi qui interdit non pas aux élèves de porter des signes religieux, mais qui interdit les signes religieux à l'école, saisi comme un espace. C'est-à-dire, c'est comme si on se détachait un peu, et ça, bien sûr, ça chiffonne les juristes, comme si on se détachait un petit peu de la lettre de la loi pour dire, finalement, cette loi de 2004, elle interdit les signes religieux, pas seulement aux élèves, mais en fait, dans l'école. Et donc, c'est ce que j'appelle une interprétation spatiale de l'interdiction qui, du coup, va au-delà de ce qui était initialement visé par le législateur de 2004. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être avez-vous souvenir dans la presse de lire des interrogations récurrentes sur est-ce que les parents, lorsqu'ils accompagnent des sorties scolaires, peuvent être soumis à l'obligation de neutralité religieuse ? Est-ce que des stagiaires en formation professionnelle, dont il se trouve que la formation à laquelle ils sont inscrits a lieu dans un lycée public, peuvent, alors même que ce sont des adultes, travailleurs être soumis à l'interdiction de porter un signe religieux, tout simplement parce qu'ils pénètrent dans l'enceinte d'un établissement public d'enseignement, etc. Donc là aussi, on a un défi assez important, me semble-t-il. Donc voilà peut-être l'essentiel de ce que je voulais dire sur cette association laïcité, école publique, d'où elle vient, ce qu'elle signifie aujourd'hui et ce qu'on peut dire en gros comme questions ou interrogations qui sont soulevées par 20 ans d'application du régime nouveau de laïcité scolaire défini par la loi de 2004. Mais je voudrais, et je vous le disais en introduction, en venir aussi à l'école privée, l'attirer un peu dans la discussion. D'abord parce que l'école privée, c'est un régime et une réalité très robuste. La réalité, je le disais tout à l'heure, environ 18% d'élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement privé, c'est un peu plus de 2 millions d'élèves. La moyenne, c'est à peu près un peu plus de 14% dans l'enseignement primaire, un peu plus de 20% dans l'enseignement secondaire, mais il y a des très grandes disparités régionales. On est en région parisienne et on atteint bientôt 50% d'élèves scolarisés dans l'enseignement privé dans la région parisienne. L'enseignement privé, par ailleurs, c'est massivement un enseignement confessionnel. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est paru en juin 2023 qui établit que 96% de l'enseignement privé sous contrat est un enseignement confessionnel. Et dans ces 96%, on a 95% d'établissements privés qui sont catholiques. D'accord ? Donc c'est une réalité très particulière et c'est une réalité qui est très robuste parce que l'enseignement privé, il existe en France dans des conditions juridiques qui ont été scellées par la loi Debré du 31 décembre 1959. La loi Debré du 31 décembre 1959, elle fait un certain nombre de choses. D'abord, elle affirme le principe de la liberté de l'enseignement, c'est-à-dire que les établissements privés sont libres de se créer. Il y a des conditions minimales de grades et de diplômes et de conditions de moralité par ceux qui créent des établissements privés, mais une fois ces conditions remplies, on peut créer une école privée. Et lorsque l'école privée est créée, l'État offre le choix entre deux formules. L'école peut rester hors contrat, elle a une liberté alors maximale et elle ne va pas bénéficier de financement public, ou elle peut choisir d'être sous contrat, auquel cas elle va bénéficier d'un financement public, qui est un financement public très important, puisque grosso modo, l'ensemble de la rémunération des personnels enseignants est imputé au budget de l'État. Et un certain nombre de dépenses de fonctionnement, voire dans une certaine mesure certaines dépenses d'investissement, peuvent être prises en charge, soit par le budget de l'État, soit par les budgets des collectivités locales. Ce qui nous amène, pour l'année 2023, à la somme de 8 milliards d'euros qui sont inscrits au budget de l'État. 8 milliards d'euros, c'est 14% du budget de l'éducation nationale. Je vous rappelle que le budget de l'éducation nationale, c'est le plus grand budget qui existe en France. Et à ces 8 milliards d'euros qui sont imputés au budget de l'éducation nationale, il faut encore ajouter à peu près 4 milliards d'euros qui sont apportés par les collectivités locales, ce qui explique le chiffre d'un peu plus de 12 milliards d'euros d'argent public qui bénéficie à l'ensemble des établissements privés sous contrat. Donc vous voyez que c'est une réalité qui est quand même très robuste. Alors cette loi Debré qui en 1959 offre la liberté de l'enseignement et la possibilité de souscrire un contrat et donc un financement public aux établissements privés, elle a bien sûr suscité une grande protestation des forces laïques en France. Et le Comité national d'action laïque, notamment, avait, au moment du vote de la loi Debré, initié une pétition et des mobilisations très importantes. Ces mobilisations, elles vont continuer pendant les années 60, pendant les années 70, encore au début des années 80, parce que ce qui est très frappant, c'est que pendant toute cette période, des années 60 aux années 80, quand on parle de laïcité, on parle vraiment de la question de la liberté de l'enseignement. On parle vraiment des modalités d'articulation entre l'État, la puissance publique, l'école publique et les établissements privés. Parler de laïcité à ce moment-là, ça veut essentiellement dire parler de la question scolaire, parler de la liberté de l'enseignement. Et ça, c'est vrai jusqu'en 1984, c'est les images que vous avez derrière moi. 1984, vous le savez, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est le président Mitterrand qui demande à son ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, de préparer un grand projet qui reviendrait sur la loi Debré. Ce grand projet, c'est le SPULEN, le service public unifié et laïque de l'Éducation nationale, qui aurait eu pour objet d'intégrer les établissements privés dans un grand service public en disant bah, « puisque vous avez tant de financement public, vous êtes le service public de l'Éducation nationale ». Mais si vous êtes le service public de l'éducation nationale pleinement intégré, alors vous êtes laïque. Et ce SPULEN suscite des protestations colossales, avec des très grandes manifestations, qui vont aboutir à l'abandon du projet. Donc 1984, le projet Savary est abandonné, et donc on va rester, en fait c'est là la vraie victoire, l'enracinement de la loi Debré, c'est 1984, hein, lorsque le projet Savary, qui est la première grande tentative des forces laïques de revenir sur ce régime qui paraîtrait favorable à l'enseignement privé confessionnel, échoue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est là en 1984. On est donc 5 ans avant l'affaire de Creil, septembre 1989, l'exclusion des jeunes filles du collège Gabriel Havez à Creil. Et c'est un moment de bascule très important, puisque comme je vous le disais, jusqu'en 1984, le mot laïcité dans le débat public, il sert essentiellement à parler de la question scolaire, entendu comme liberté de l'enseignement, régime de l'enseignement privé. À partir de 1989, le mot de laïcité dans le débat public ne va plus du tout désigner ça, il va désigner tout autre chose, il va désigner la question du port par les élèves de signes religieux à l'école, et il va surtout désigner la question du voile. Alors ça me semble être un élément très important et qui permet de comprendre que c'est intéressant de parler aussi d'école privée quand on parle de laïcité et d'école. Il me semble que l'école privée, c'est vraiment un point d'observation privilégié, non seulement de ces transformations du sens prêté à la laïcité, mais aussi de ce que ces transformations vont invisibiliser. Et je voudrais en venir à une idée que je développe dans le livre sur l'école et la République, c'est que fondamentalement, la loi Debré, le régime juridique de l'enseignement privé, on peut le lire comme un régime d'accommodement de la religion, et historiquement de la religion catholique, au cœur de l'ordre constitutionnel français. Et cette clé de lecture que je propose, elle est un peu paradoxale ou un peu provocatrice à propos d'un régime constitutionnel, le régime constitutionnel français, qui s'enorgueillit précisément d'avoir façonné un ordre juridique présenté comme opposé à et supérieur à toute idée d'accommodement de la religion. Donc on a voilà, ce discours de célébration très commun de la tradition constitutionnelle et politique française qui est de dire vraiment la laïcité, c'est pas d'accommodement de la religion, pas d'adaptation à la réalité religieuse, etc. Et il me semble, à contrario, qu'on peut lire le régime juridique de l'enseignement privé comme reposant pleinement sur, comme constituant un exemple vraiment très parlant, d'accommodement consenti à la religion, pourtant au cœur de l'ordre constitutionnel laïque. Alors j'en donnerai 3 illustrations. Pourquoi est-ce qu'on peut lire le régime de l'enseignement privé comme un régime d'accommodement ? Bah, d'abord et avant tout parce que à l'école privée, le mot de laïcité n'a pas la même signification qu'ailleurs. Or, le mot de laïcité, il figure à l'article 1er de la Constitution française. Les écoles privées ne sont pas situées à l'extérieur de l'ordre constitutionnel. Et donc, il me semble qu'on peut lire là un premier exemple d'accommodement de la tradition laïque ou d'adaptation de la signification du principe pour tenir compte de la spécificité de l'enseignement confessionnel. Pourquoi est-ce que ce terme de laïcité n'a pas du tout le même sens à l'école privée ? D'abord et avant tout parce que les personnels, les bâtiments peuvent exprimer la religion. On ne va pas interdire des signes religieux dans les établissements confessionnels. On ne va pas interdire aux enseignants qui, en partie, sont choisis en référence à un certain éthos confessionnel d'exprimer leur confession à l'école. On ne va pas interdire aux élèves d'exprimer leurs croyances religieuses à l'école. La loi de 2004 ne s'applique pas dans les établissements privés d'enseignement. Vous avez vu tout à l'heure la formulation de la loi, elle fait interdiction aux élèves de l'enseignement public de porter des signes ou tenues par lesquels ils expriment leurs croyances religieuses, mais évidemment, ça ne s'applique pas à l'école privée. Pardon. Les écoles privées sont bien sûr tenues, lorsqu'elles sont sous contrat, c'est-à-dire lorsqu'elles bénéficient d'un financement public, de respecter les programmes officiels de l'éducation nationale. C'est la contrepartie de leur association au service public de l'éducation nationale. Alors, ça signifie qu'elles peuvent ajouter à ces programmes, puisque précisément dans les écoles privées, puisqu'elles peuvent affirmer un caractère propre, on peut avoir des heures d'enseignement religieux, des heures de pastorale, des célébrations religieuses, etc. Donc, les écoles privées peuvent ajouter au programme officiel de l'éducation nationale. Elles ne peuvent pas, en principe, soustraire quoi que ce soit. Or, là aussi, on voit qu'il y a un certain nombre de tensions et de difficultés. Et très souvent, pour ce qui est de l'enseignement, d'éducation à la sexualité qui est obligatoire dans les programmes scolaires depuis 2001, on note un certain nombre de tensions. Et je vous ai mis ici un document qui n'est pas secret, vous pouvez le trouver sur Google aussi facilement que moi, qui est une note du secrétariat général de l'enseignement catholique, qui, alors elle est un peu ancienne dans le sens où elle évoque une circulaire de 2003 qui a depuis été modernisée, mais enfin la position de principe est la même. Le secrétariat général de l'enseignement catholique estime ici que la circulaire relative à l'éducation à la sexualité ne s'applique pas aux établissements privés sous contrat. Alors, moi, juridiquement, je ne m'explique pas ce raisonnement, puisque un enseignement sous contrat est tenu de respecter les programmes officiels, et je n'ai jamais trouvé aucune règle qui permette de soustraire tel ou tel morceau du programme à cette obligation, mais c'est pour vous donner un exemple de cette laïcité qui n'a pas exactement le même sens, ni dans les principes, ni dans les faits. Deuxième illustration de cette idée selon laquelle le régime de l'enseignement privé peut se lire comme une forme d'accommodement consenti à la religion, c'est tout simplement cette question du financement public. La loi de 2005, la loi de 1905, la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État, énonce en son article 2 que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. On en tire généralement l'idée qu'il y a en droit français un principe de non-financement public du culte. Alors, à vrai dire, c'est un principe qui connaît de nombreuses exceptions, il n'est pas absolu. Il y a toute une série de raisons pour lesquelles il y a des formes directes et indirectes de financement public du culte, mais néanmoins, l'idée de non-subventionnement et non-salariat d'activité culturelle demeure. Face à cette idée, les volumes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire 8 milliards d'euros au budget de l'État, 14% du budget de l'éducation nationale, 12 milliards d'euros si on compte les financements consentis par les collectivités locales pour l'enseignement privé, on n'est plus véritablement dans une exception à un principe, on est véritablement en fait, dans un autre principe, me semble-t-il. Donc, cette importance du financement public, elle mérite d'être soulignée. Et ça me semble, je pourrais en dire davantage, mais ça me semble également être une illustration importante. Troisième illustration de cette clé de lecture du régime de l'enseignement privé comme accommodement de la religion, c'est la spécificité des règles de droit du travail. C'est très intéressant de se pencher sur le droit du travail parce qu'en France, justement, parce qu'il y a ce récit commun sur la tradition constitutionnelle et politique qui entend dire que, justement, au nom de la laïcité, on ne fait pas d'adaptation à la religion, il y a une spécificité du droit français par rapport à ce qu'on va rencontrer, par exemple, en Allemagne ou en Angleterre ou en Italie. C'est qu'en le droit du travail français, a priori, ne connaît pas la catégorie de ce qu'on appelle les entreprises de tendance. Qu'est-ce que c'est les entreprises de tendance? Ce sont des entreprises ou des organisations qui sont fondées sur un certain ethos et auxquelles on va reconnaître qu'il est légitime qu'elles privilégient dans le recrutement, par exemple, des employés qui sont loyaux par rapport à cet ethos. D'accord ? Donc ça va être, en Allemagne, il y a beaucoup d'organisations religieuses qui possèdent par exemple des hôpitaux. La question se pose de manière récurrente de savoir si et dans quelle mesure tel ou tel recrutement dans un hôpital qui appartient à une organisation religieuse peut privilégier le fait que le médecin, le chargé de communication, que sais-je, soit de la même confession que l'organisation. En France, ce n'est pas ancré du tout dans la tradition juridique, précisément à cause de cette tradition dont je parlais. Néanmoins, s'il y a un exemple d'organisation qui, en tant qu'employeur, ont pu bénéficier dans le droit français d'adaptation, c'est les écoles privées. Et donc, on a un certain nombre d'exemples juridiques où des juges ont pu admettre qu'une école privée pouvait, au nom de son caractère propre confessionnel, licencier une enseignante qui avait divorcé, ça a été le cas il y a longtemps maintenant, à la fin des années 70, dans un établissement privé d'enseignement catholique, ou exiger d'une certaine manière que les maîtres de l'enseignement privé respectent le caractère propre de l'établissement confessionnel. Donc on a un certain nombre de règles ici aussi qui, me semble-t-il, sont assez intéressantes. Alors, je vais me taire parce que sinon je ne vais pas respecter ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je voudrais qu'on ait quand même le temps d'échanger. Mais je voudrais simplement conclure par cette diapositive en disant que quand on regarde ensemble école privée et école publique, on voit qu'en réalité, le régime de laïcité, il est évidemment, c'est une banalité de le dire, plus complexe que ça n'apparaît souvent dans le débat public, mais surtout qu'il se nourrit de nombreux paradoxes en cascade. Alors, quelques-uns de ces paradoxes, on pourrait les lister comme suit. D'abord, le discours républicain de la laïcité tel qu'il s'est cristallisé dans les mobilisations qui ont mené à la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école, eh bien, dans les faits, il est difficile de contester qu'il a conduit à évincer un certain nombre d'élèves de l'école publique. Alors, pour toute une série de raisons d'existence et d'accès aux données, il est impossible de donner des chiffres. Néanmoins, on a un certain nombre de témoignages, à commencer par le fait qu'en 2004, lorsque la loi du 15 mars 2004 a été adoptée, il n'existait pas d'écoles privées musulmanes en France. Il en existe aujourd'hui un certain nombre. Là encore, il est difficile de dire les chiffres, je peux revenir sur les problèmes de données, mais voilà. C'est un point qui me semble intéressant parce que tout le discours sur la loi de 2004 justifié par une certaine compréhension républicaine de la laïcité qui veut faire de l'école véritablement un sanctuaire préservé de la religion, etc., peut dans une certaine mesure être interprété comme ayant produit pour partie un effet inverse, puisque précisément on a pu encourager, corrélation n'est pas causalité, mais néanmoins, l'apparition de nouveaux établissements confessionnels. Deuxième paradoxe, l'apparition d'établissements musulmans, en retour, s'est mis à inquiéter un certain nombre de promoteurs de cette nouvelle compréhension du principe de laïcité, de sorte que depuis un certain nombre d'années, depuis la fin des années 2010, on assiste à une multiplication de textes législatifs qui reviennent sur le régime libéral de l'enseignement privé pour serrer les boulons, rendre plus difficile l'ouverture d'établissements privés, mais ces anxiétés sont directement corrélées, pour le coup, à l'apparition d'écoles musulmanes. Donc, d'une certaine manière, on favorise la création d'écoles musulmanes et lorsqu'elles apparaissent, on va venir durcir les conditions d'existence ou d'ouverture des établissements privés, confessionnels. Et, paradoxe ultime, pourrait-on dire, on voit apparaître aujourd'hui des occurrences d'écoles confessionnelles, c'est-à-dire d'écoles privées qui affirment un caractère propre confessionnel, mais qui se disent neutres, c'est-à-dire qui exigent la neutralité confessionnelle de leurs élèves, c'est-à-dire qui répliquent dans leur règlement intérieur la loi de 2004 qui pourtant ne concerne que les établissements publics. Alors, les établissements privés sont libres de choisir si on peut porter des signes religieux, si on peut ne pas porter des signes religieux, mais il est très frappant de voir que, là encore c'est difficile à quantifier, mais c'est pas négligeable, on voit un certain nombre d'établissements privés, confessionnels simultanément, et exigeant la neutralité des élèves, ce qui montre bien, me semble-t-il, les paradoxes, parce que l'école confessionnelle privée neutre, me semble-t-il, c'est un paradoxe important. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger, et j'espère pas avoir été trop longue, et je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci. Je mets mes commentaires de côté, j'y reviendrai après, je donne la parole à la salle. Je suppose qu'il y a des réactions, des questions sur cette très brillante présentation. Et évidemment, elle n'est pas complète parce qu'elle ne peut pas l'être, mais quand même qui pose bien le problème.
Bonsoir. Une question juste par rapport à la fin. Vous avez dit que c'était difficile de mesurer le nombre d'élèves qui sont partis dans des lycées confessionnels, lycées musulmans en l'occurrence. Je ne comprends pas pourquoi c'est difficile de mesurer ça. Et je n'ai pas l'impression que le fait d'avoir mis la loi de 2004 a poussé à la création, que ce soit le mouvement principal qui ait poussé à la création d'écoles confessionnelles. J'ai plutôt l'impression qu'il y a eu un entrisme qui est arrivé partout en Europe, d'ailleurs, je pense, pas qu'en France, sur ces sujets-là.
Je réponds tout de suite
Oui, bien sûr, oui, au fur et à mesure.
Alors, merci beaucoup de la question. Alors, évidemment, la loi de 2004 n'est évidemment pas le seul facteur qui a mené à l'apparition d'écoles privées musulmanes. Il y en a bien d'autres. Il y a des facteurs religieux, déjà. Il y a des facteurs sociologiques. Il y a des facteurs de transformation de l'enseignement public aussi. Bruno Pousset, un historien spécialiste de l'école privée, souligne un élément qui me paraît très intéressant, qui est lié au fait que l'enseignement public, dans l'enseignement public, l'enseignement par exemple de la langue arabe a quasiment disparu. Donc ça peut être également un facteur qui peut expliquer le souhait dans un certain nombre de cercles sociaux de pouvoir avoir un enseignement en arabe qui va évidemment pouvoir être offert dans des établissements musulmans plus que dans d'autres établissements privés confessionnels. Donc il y a évidemment une multiplicité de facteurs, et je précisais bien effectivement que corrélation n'est pas causalité, mais néanmoins la corrélation, elle existe. Et il me semble que c'est un élément assez intéressant, d'autant qu'on a un certain nombre de témoignages. Alors, on n'a pas de données chiffrées pour différentes raisons. Alors, on n'a pas de données chiffrées d'abord parce qu'on a un problème avec les données en France, on a un problème avec les données ethniques, on n'a pas de données religieuses. Donc ça, c'est un premier élément qui fait tout simplement qu'on n'a pas les données. On a par ailleurs un problème sur la question de l'enseignement privé, de grande opacité des données. Et là, par exemple, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, par exemple, autour, par exemple, de la publication d'un certain nombre de rapports d'inspection concernant un certain nombre d'établissements privés qui ont fait beaucoup de bruit, montre bien qu'on a un problème d'opacité des données. Parce que, par exemple, pour la grande affaire du lycée Stanislas, c'est quand même Mediapart, pour ne pas le nommer, qui a publié le rapport de l'inspection générale de l'enseignement supérieur. Et le document n'est pas accessible par les voies officielles. Donc on a aussi un problème quand même de grande opacité des données relativement à l'enseignement privé. Donc ça, c'est quand même un élément très très important. On a néanmoins, du coup, et c'est ce sur quoi on peut travailler, puisqu'on n'a pas le reste, on n'a pas les données chiffrées, on a un certain nombre de témoignages. Et par exemple, Bruno Pousset, encore lui, par exemple, rapporte que il y a un certain nombre de cas, alors je n'ai pas le cas de l'établissement en tête, mais où clairement des jeunes filles qui avaient été exclues d'un collège public, et c'est le rectorat local qui a pris les choses en main en demandant à l'établissement privé confessionnel de la zone de bien vouloir les accueillir. Donc on a malgré tout des éléments qui permettent de tracer, il est difficile de les quantifier comme je l'ai dit, mais de tracer les formes de cette circulation. Et le témoignage de Bruno Pousset n'est pas le seul, puisque, par exemple, il y a un certain nombre d'établissements privés musulmans, par exemple, qui, dans le récit institutionnel qu'ils produisent sur eux-mêmes, font ce récit-là. Ils disent, voilà, l'établissement a été créé, c'est le cas, par exemple, d'un lycée lillois, l'établissement a été créé après le renvoi de tel nombre de jeunes filles musulmanes de l'enseignement public. Donc voilà quelques éléments. Je ne prétends pas que ça soit une réponse pleinement satisfaisante pour toutes les raisons que j'ai dites, mais c'est un certain nombre d'éléments avec lesquels on travaille.
D'accord. Moi, j'aurais une remarque à faire, parce qu'il m'a semblé que dans plusieurs fois, vous avez presque fait une présentation ahistorique. C'est-à-dire vous parlez de 1989, en parlant de Creil, Mais 1989, c'est aussi la fatwa contre Salman Rushdie. Et pas un moment, vous n'avez prononcé le mot de l'islam politique durant votre présentation. Et moi, j'ai quand même le sentiment que le social existe, les lois ne tombent pas du ciel comme ça, indépendamment de ce qui se passe dans la société. Donc 1905 et 2004, il y a quand même des grandes différences. Vous l'avez dit, 1905 s'adresse aux institutions, 2004 aux personnes. Mais quelles personnes ? Il s'agit quand même de mineurs, on est à l'école. Il s'agit quand même de ça. On peut se poser la question, est-ce que la liberté de conscience d'un enfant de 10 à 13 ans doit être traitée de la même manière que celle de ces femmes qui veulent absolument rentrer dans l'espace public et en abaya. Alors vous avez aussi parlé des signes. Moi, je suis pas de naïveté quand même quand je vois la raison pour laquelle le président Macron porte un signe. Ça me semble être très différent des raisons pour lesquelles les femmes portent des voiles, un voile. Et il me semble quand même que c'est difficile d'oublier que le voile est surtout est devenu l'étendard de l'islam politique. Alors bien sûr, les lois dont vous avez parlé peuvent être considérées comme liberticides, mais toute loi, à mon avis, est liberticide. J'aimerais bien vous m'en citer qu'il ne le soit pas, y compris la nécessité de porter une ceinture quand on conduit sa voiture. Enfin, ça, c'est bon, c'est un exemple rapide. Voilà, donc voilà le genre de réflexion que votre présentation a suscité. C'est qu'effectivement, nous sommes dans une société où l'islam, pas l'islam de la majorité des musulmans, mais l'islam politique, même si elle est minoritaire, elle est grave. Il y a eu des attentats, il y a eu énormément d'attentats dont vous ne parlez pas. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Même si les choses sont difficiles et compliquées, ou bien vous me dites que les lois sont binaires et on est impuissant parce qu'effectivement il y a énormément de circonstances qu'on saura traiter, auquel cas bon, c'est bien regrettable, mais c'est la réalité. La réalité est complexe et ça n'exonère pas de faire des lois. Voilà, c'est mes remarques et j'aimerais bien que vous pouviez répondre à quelques-unes.
Bien sûr, merci. Bien sûr. Alors effectivement, je n'ai pas parlé de Salman Rushdie, je n'ai pas parlé d'islam politique, il y a énormément de choses, en fait la liste de toutes les choses dont je n'ai pas parlé est évidemment beaucoup plus longue que la liste des choses dont j'ai parlé. Mais une des raisons pour lesquelles je n'en ai pas parlé ici et aujourd'hui, c'est que pour le coup, les points très importants que vous évoquez, ce sont les points qui sont omniprésents dans le débat public sur la laïcité. D'accord ? Donc précisément, j'essaye d'essayer de parler un petit peu d'autre chose. C'est-à-dire que sans cesse, on justifie les évolutions contemporaines de la signification prêtée à la laïcité dans le débat public, y compris les évolutions juridiques, par la nécessité de lutter contre l'islam politique. Et on va parler effectivement des attentats qu'on peut effectivement faire remonter à la fatwa contre Salman Rushdie, etc. Donc moi, effectivement, j'ai souhaité parler un peu d'autre chose. Alors ça ne veut pas dire que je méconnais ce contexte dans lequel toutes ces évolutions ont lieu. Néanmoins, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que, ici, je voudrais faire écho à un travail que je trouve très intéressant de Samia Langar qui s'appelle Islam et école, ou quelque chose comme ça, un ouvrage qui est paru récemment, où elle replace précisément toute cette manière de parler de la laïcité aujourd'hui dans le débat public dans l'histoire plus longue de la question de l'intégration des populations musulmanes en France. Et elle met en parallèle les mots d'ordre qu'on pouvait entendre dans la marche des beurs autour des questions de l'intégration, notamment des populations en provenance de pays où la religion musulmane est prégnante, qui, au début des années 80, étaient des mots d'ordre de droits humains, d'intégration, de citoyenneté. Et elle ne méconnaît pas du tout le fait que la tonalité politique qui se donne à voir, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est représentative ou qu'elle est absolue, mais la tonalité politique de ce qui se donne à voir certains mouvements liés à l'islam aujourd'hui est une tonalité bien différente qui va peut-être exacerber plutôt l'identité, la confession, etc. Et elle interroge sur les raisons pour lesquelles il y a eu effectivement, elle documente de manière sociologique, pour une part, un repli sur des identités confessionnelles, un repli sur des communautés religieuses, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir pourquoi il y a eu cette transformation. Pourquoi est-ce qu'en 83, la marche des beurs demande les droits, l'intégration, la citoyenneté, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a, au moins en partie, plus de revendications identitaires, de replis communautaires, etc. Alors, moi, je ne suis pas sociologue des religions, hein. Il y a évidemment des mouvements internes aux religions. Moi, pour la part qui m'intéresse, en venant de l'analyse du droit des politiques publiques qu'il sert, c'est aussi d'interroger justement la part de la politique publique là-dedans. Et est-ce que, dans quelle mesure, il y a un manquement à la promesse républicaine, à la demande d'intégration, qui peut être documentée, y compris par les textes sur la laïcité, qui peut expliquer cette transformation. Alors, et ça me paraît quand même quelque chose de très important, avant que de parler de l'islam politique, ou avant, a fortiori, de parler du terrorisme. Non pas, évidemment, que le terrorisme n'est pas important, non pas qu'il n'a pas bouleversé nos communautés politiques et mis à l'épreuve les cadres dans lesquels nous sommes, mais, et c'est la deuxième chose que je voulais répondre, il me paraît très important de comprendre que quand on change la signification des principes juridiques, on les change pour tous. Alors, la difficulté dans les moments contemporains qui, tout en se défendant toujours de faire l'amalgame, je ne dis pas du tout que c'est votre cas, mais c'est le cas très souvent dans le discours politique, de dire on ne va pas faire d'amalgame entre islam et terrorisme, enfin néanmoins on est quand même bien obligé de voter cette nouvelle loi sur la laïcité parce qu'il y a eu les attentats. Donc en fait on dit qu'il n'y a pas d'amalgame, mais il y a un peu un amalgame sous-jacent à peu près permanent. La difficulté quand on fait ça, c'est qu'on modifie des opérateurs du pacte républicain, la laïcité, l'égalité, etc. Et on dit qu'on le modifie que pour lutter contre le terrorisme, mais en réalité, on les modifie pour tout le monde. Et j'en donnerai une illustration. Prenez, là, j'ai parlé beaucoup d'école, mais si on parlait, par exemple, de la question du port du voile au travail, d'accord ? Le port du voile au travail, il y a eu la grande affaire Babylou, cette puéricultrice qui a refusé de se conformer à la politique de neutralité qui a été mise en place par la crèche Babylou. Tout le monde en a parlé, le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, n'en parlait que de ça pendant des années. Il y a eu des propositions de loi, il y a eu des évolutions juridiques. Aujourd'hui, on accepte, c'est une modification de 2016 du Code du travail, on accepte qu'un employeur fasse le choix de la neutralité convictionnelle dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il est possible pour une entreprise, dans le règlement intérieur, d'insérer des clauses de neutralité qui interdisent aux salariés l'expression des convictions religieuses, mais aussi politiques et philosophiques. Donc j'aime bien prendre cet exemple parce que ça vous montre qu'il y a une chose qui est dans le viseur, c'est vraiment le voile au travail, et puis à l'arrivée, la loi elle est modifiée, pas seulement pour empêcher le voile au travail, mais pour permettre aux employeurs de restreindre l'expression convictionnelle, c'est-à-dire y compris religieuse et politique et philosophique. Donc il y a un effet, en fait, ce que j'essaye de dire là, c'est que quand on traduit des projets politiques dans les termes juridiques, c'est toujours une opération périlleuse, parce qu'il y a des effets de cliquet, quoi. Et donc quand on redéfinit la laïcité, on ne peut pas dire « Tiens, je vais redéfinir la laïcité que pour l'islam politique » ou « Je vais redéfinir la laïcité que pour lutter contre le terrorisme ». Parce qu'en fait, la laïcité, c'est dans l'article 1er de la Constitution, et redéfinir la laïcité avec une idée en tête, ce n'est pas forcément maîtriser les effets en cascade que ça va produire pour tous. Et donc, voilà, c'est un peu l'exemple du voile au travail. On veut interdire le voile au travail et on interdit les signes politiques et philosophiques.
Oui.
Oui, j'avais pas l'intention de prendre la parole parce que Stéphanie Edvaucher fait partie des 5 ou 6 auteurs qui fondent ma conception de la laïcité. Donc c'est pas du tout à partir de son exposé, mais de votre intervention. Je vais citer quelques faits. Le premier, que Stéphanie ne pouvait pas tout dire, le premier fait à propos du collège de Creil, c'est que en mai, le principal Ernest Chénière pose dans la cour avec les élèves voilés. Pourquoi ? Pour financer un projet éducatif. Quelques mois plus tard, il en fait une affaire. Il faut savoir que Ernest Chénière était très à droite et qu'il est devenu même extrême droite depuis. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait, à propos de cette histoire de voile, puisqu'effectivement, ça tourne toujours autour de ça, il y a des gens qui ne comprennent pas la notion de tolérance. Et en France, on a beaucoup de difficultés, effectivement, puisque la laïcité à la française s'est construite largement contre l'idée de tolérance en anglo-saxonne. On a l'impression que la tolérance, c'est quelque chose de condescendant. Mais dans le sens moderne, la tolérance, ça n'est pas ça. La tolérance suppose au départ désapprobation. On ne tolère que ce qu'on désapprouve. Et quand on a le pouvoir d'interdire, on décide de ne pas le faire parce qu'on considère que les raisons de le faire sont moralement ou politiquement fragiles. Et quand on tolère le port du voile, ça ne veut pas dire qu'on est favorable au port du voile. Troisième point, toujours sur le voile, dire que le voile est le signe de l'islam politique, c'est incontestable que l'islam politique a instrumentalisé un grand nombre d'affaires de voile, mais les enquêtes sociologiques extrêmement nombreuses montrent la pluralité, l'équivocité donc du port du voile, la pluralité des motivations. On ne peut pas le réduire aujourd'hui à cela. Enfin, en ce qui concerne la laïcité qui vient dans cette histoire de terrorisme, il faut savoir que de 1982, attentat de la rue des Rosiers, à 2012, attentat de Mohamed Merah à Toulouse, le mot de laïcité n'a jamais été prononcé. Et depuis 2015, attentat que vous connaissez tous, on ne parle que de laïcité, comme si la laïcité pouvait faire reculer le terrorisme. On est quand même là, quand même, dans des choses absolument extravagantes, il faut bien le dire. Un dernier mot encore, parce que je pourrais parler l'autre, je fais aussi la conférence, maintenant c'est un peu tard. Mais loi liberticide, non, bien entendu. Quand j'enseignais, je montrais à mes étudiants mon bras, et je disais, voyez, mon bras, il est limité au niveau de ses mouvements. Hein. Donc les os, c'est les lois. Les lois me limitent. Mais sans mes os, je n'ai pas de mouvement. Donc la loi est libératrice le plus souvent. Voilà, merci.
D'abord, je vous remercie de cette conférence et je remercie aussi Daniel Kunt pour cette invitation parce que j'ai été quelque temps responsable de la laïcité à l'Union rationaliste et j'ai mesuré l'immense difficulté de penser ou de parler laïcité. Y compris chez les rationalistes. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'effort que vous avez fait et qui est tout le sens de votre travail pour remettre en perspective historique ce que sont les principes de la laïcité et ce qu'ils sont devenus et quelle, au fond, instrumentalisation politique de la laïcité ou du principe de la laïcité on fait. Voilà. Alors dire cela aujourd'hui, hein, c'est un crime de lèse-majesté, c'est un crime politique et c'est vouloir resituer les choses conceptuellement, historiquement, philosophiquement ou juridiquement. Ça passe aujourd'hui comme un soutien à l'islam politique. Et ben, j'essaye de m'insurger contre cela, mais j'ai une petite question naïve. C'est dans quel état de terreur, de fureur, d'incompréhension on est arrivé à propos de la laïcité pour que les tensions soient telles?
Petite question naïve, mais non, elle n'est pas du tout petite. Non, je ne sais pas. Moi, je crois que nous sommes tous et toutes témoins, en fait, de cette anxiété croissante, de la difficulté croissante de parler un peu sereinement de ces questions pour les raisons que vous avez dites, pour d'autres raisons encore. Et c'est vrai que peut-être, voilà, je rebondirai juste sur ce point. Je crois que ce qui est très important, c'est il y a évidemment beaucoup d'autres choses très importantes dans la question que vous soulevez, mais une manière de voir l'importance qu'elle revêt, c'est vraiment de prendre la mesure dans laquelle, parfois, c'est vraiment la liberté d'expression qui est mise en cause, à la faveur de ces anxiétés immenses. Alors bon, je ne vais pas parler de vous, je ne vais pas parler de difficultés de cette nature, mais je voudrais juste reprendre un cas dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, qui me paraît très intéressant, qui est le cas de la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, qui a été décidé par décret signé en Conseil des ministres en décembre 2020, si je ne me trompe pas. Le décret de dissolution du collectif contre l'islamophobie en France était fondé sur deux motifs. Le premier, c'est qu'il était reproché au collectif ses accointances avec le terrorisme. Et le second, c'est qu'il lui était reproché de dénoncer les effets islamophobes des politiques publiques de lutte contre le terrorisme. Le décret a été contesté en justice. Le Conseil d'État, qu'il est difficile de soupçonner pour le coup d'islamo-gauchisme, a censuré le décret sur un point. Il a estimé que le ministre de l'Intérieur n'apportait aucun élément à l'appui de l'argument selon lequel le collectif contre l'islamophobie aurait des accointances avec le terrorisme. Donc le décret aurait pu être annulé. Restait le deuxième fondement, le fait qu'il dénonce l'islamophobie qui résulte des politiques publiques. Et là, le Conseil d'État a dit « ce motif-là est valable, donc je maintiens la validité du décret parce qu'en effet, le CCIF a des propos sans nuance, c'est le texte du Conseil d'État qui dit ça, pour dénoncer l'effet islamophobe des politiques d'État. » Donc ça veut dire qu'on a une affaire où nous, on n'a pas accès au dossier. Vous pensez bien, dossier avec plein de notes blanches des services de renseignement. Bon, moi, j'ai évidemment pas accès au dossier. Je lis la décision du Conseil d'État, à qui je me fie, qui dit, franchement, le ministère de l'Intérieur, il était très faible sur l'accusation d'accointance avec le terrorisme. Donc, en fait, on a dissous le collectif contre l'islamophobie uniquement parce qu'il dénonce l'islamophobie qui résulte des politiques de lutte contre le terrorisme. Je crois que c'est un bel exemple quand même de la mesure dans laquelle en fait c'est vraiment la liberté d'expression qui est en cause derrière justement tout ce bruit et cette fureur autour des questions islam, islam politique, terrorisme, voilà, cette dimension très sécuritaire de la laïcité.
Une question ?
Il y a des signes dont le port ostentatoire peut créer énormément de clivages et qui ne sont pas des signes religieux. Ce sont les signes d'appartenance à telle ou telle organisation sportive. Alors, comment réagissez-vous par rapport à ça, à moins que vous me répondiez que le football est une religion ?
Alors, les signes d'appartenance à une fédération sportive, par exemple ? Oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous risquez un trouble à l'ordre public, mais vous ne risquez pas directement un trouble aux valeurs républicaines. Enfin, en tout cas, les évolutions juridiques dont on a parlé ce soir visent le signe qui met en cause la laïcité. Donc, on voit mal directement des appartenances sportives mettre en cause la laïcité. Mais un trouble à l'ordre, c'est certainement plausible.
Attendez, alors là, je vais donner la parole ici parce qu'on a les chats.
Oui, bon, je pense que les réponses seront rapides, mais j'ai un intervenant quand même qui nous dit il faut faire un retour sur le futur, direction 1905. Voilà, c'est-à-dire, bon, la loi de 1905 pourrait très bien suffire. Hein. Bon, je ne suis pas loin de penser ça. Mais ce même intervenant parle du concept républicain de la laïcité tel qu'on l'a maintenant dans nos lois et il dit « La France me semble être le seul pays occidental qui a ce concept de la laïcité sous cette forme et je trouve que c'est anachronique ». Dit l'intervenant, et il dit aussi, ce qui va un peu avec le même intervenant, la laïcité et le droit de l'homme, et les droits de l'homme, est-ce que c'est pas contradictoire ? Parce que la laïcité, ce concept de laïcité, n'est pas contradictoire avec la vision des droits de l'homme. Bon, je pense que vous aurez assez vite répondu.
Ça dépend un peu de quelle laïcité on parle. Si on fait, si on fait le retour à la loi de 1905, la loi de 1905, son article 1er dispose que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice du culte. Donc ça, ce sont des droits humains importants. C'est pas contraire aux droits de l'homme. En revanche, il est vrai que dans un des multiples rapports qui ont pour partie mené à l'adoption de la loi de 2004 interdisant aux élèves le droit de porter des signes religieux, et je pense en particulier au rapport de François Baroin, qui s'appelait « Pour une nouvelle laïcité », il revendiquait explicitement la nécessité de ce qu'il appelait une nouvelle laïcité, et il revendiquait explicitement que cette laïcité serait en quelque sorte, comme il dit, contraire aux droits de l'homme. Donc effectivement, il y a une tradition, on peut lire le texte de 1905 comme étant un principe de laïcité qui englobe les droits humains, en tout cas la liberté de conscience et la liberté de culte, et on peut en effet s'interroger sur la mesure dans laquelle des itérations plus contemporaines, des articulations plus contemporaines du principe de laïcité, effectivement, sont plus en délicatesse avec certains aspects de la liberté religieuse.
Celui-là.
Ah oui. Oui, alors, propre à la France, le terme de laïcité, il est quasiment propre à la France, ou en tout cas, il n'a pas d'équivalent fonctionnel, puisqu'il existe en Turquie, mais pour dire à peu près l'opposé, enfin je vais vite, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, à l'échelle de l'Europe, il y a un principe qui est en partage, qui est le principe de neutralité de l'État. Donc même dans les États où il n'y a pas de séparation des églises et de l'État, il y a un principe de neutralité de l'État, de neutralité de l'action publique, et la neutralité de l'État, c'est une forme d'exigence, d'équidistance au culte qui pèse sur l'action publique, qui aboutit à garantir l'égalité entre les citoyens. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la France.
Alors, moi, j'ai quand même une petite réflexion. Vous avez quand même bon nombre de familles de confession musulmane, de confession juive, qui mettent leurs enfants dans des écoles privées catholiques, déjà parce que l'enseignement catholique accueille tout le monde très librement. La question, lorsqu'on inscrit nos enfants dans une école catholique, la question du baptême est posée, mais n'est en rien discriminante pour l'inscription dans l'établissement pour le plus grand nombre. Bien sûr, il y a des exceptions. Et lorsqu'on interroge ses parents en leur disant mais ce n'est pas votre confession, pourquoi avoir fait le choix d'une école catholique et non pas d'une école musulmane ou juive, les parents nous répondent mais en fait, je n'ai pas fait le choix d'une confession, j'ai fait le choix d'un cadre dans lequel on enseigne le respect d'un certain nombre de règles, le respect de la croyance, quelle qu'elle soit. Parce que souvent aussi, dans les écoles catholiques, vous parliez tout à l'heure du temps d'éducation religieuse, c'est un temps où on transmet une éducation religieuse de toutes les religions. Bien souvent, c'est un lieu d'échange sur l'ensemble des religions, puisque c'est là que sont rassemblés les enfants qui ne préparent pas de sacrements, qui ne sont pas baptisés et qui sont d'autres confessions. Et justement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que ces temps de partage et d'échange sur les religions de chacun sont peut-être un très bel exemple de laïcité, parce que chacun existe avec apporte lors du débat et lors de l'échange sa propre histoire, sa propre éducation, et ne vit-on pas mieux ensemble en se connaissant les uns les autres? Enfin, c'est peut-être un peu la base, je sais pas, ça peut paraître naïf, mais...
Non, attendez.
Merci. D'abord, il y a une chose qui est très importante, c'est que au terme de la loi Debré, donc qui a défini les modalités d'existence des écoles privées, toutes les écoles privées sous contrat ont l'interdiction de choisir leurs élèves sur le fondement des croyances. C'est-à-dire qu'en principe, une école catholique ne peut pas refuser un élève au motif qu'il ne serait pas catholique, une école juive ne peut pas refuser un élève au motif qu'il ne serait pas juif, etc., etc., pour l'ensemble des établissements privés. C'est le principe. On sait qu'il y a des exceptions, des violations de cette interdiction législative, et on s'interroge d'ailleurs sur le point de savoir pourquoi l'action publique est si timide, si inexistante face à ces méconnaissances de la loi. Ce point étant précisé, en réalité, la difficulté pour répondre à votre question, c'est qu'il y a une extraordinaire variété d'établissements privés confessionnels. Et par exemple, vous dites qu'il y a un certain nombre de familles qui vont scolariser des enfants dans un établissement privé confessionnel, peu importe la confession, juste pour avoir le partage des valeurs ou un certain nombre de principes éducatifs. Mais il y a aussi, notamment à Paris ou dans certains grands centres urbains, tout autre chose qui se joue dans la scolarisation à l'école privée. Et en réalité, des stratégies sociales, hein, d'entre-soi social, et c'est toute la discussion qu'il y a aujourd'hui, hein, sur l'absence de contrepartie qui est demandée aux établissements privés confessionnels qui reçoivent un très grand argent public sans prendre toute leur part aux efforts de démocratisation scolaire. Donc c'est toute la discussion autour des indices de position sociale, etc. Donc en fait, il y a toutes sortes de stratégies, et il y a aussi des établissements confessionnels, y compris chez les catholiques, qui ne reçoivent pas aisément des élèves de toutes les confessions. Donc en fait, il y a vraiment une très très grande variété. Après, plus sur la dimension vraiment de fond de votre question, c'est-à-dire est-ce que, d'une certaine manière, la laïcité, ça ne serait pas une forme de pluralisme dans l'idée même qu'il peut y avoir des valeurs, des croyances, etc. Bah, on peut aussi dire que c'est, d'une certaine manière, le projet de l'école laïque publique, telle qu'elle a pu exister. Je vous rappelle qu'au tout début de l'école publique laïque, il y a cette très fameuse circulaire de Jules Ferry aux instituteurs, où il n'a pas du tout ce discours sur un regard négatif ou dégradé sur la religion. Au contraire, il dit que l'instituteur doit respecter le sentiment religieux lorsqu'il est inculqué par le père de famille, c'est ainsi qu'on parlait en 1882, et que l'instituteur doit faire attention de ne pas froisser le sentiment religieux de l'élève. Donc voilà, il y avait aussi possiblement cette idée d'égalité et de respect des valeurs.
Mais il me semble que plus près de nous, pour répondre à votre question, après 2001, Régis Debray avait lui-même demandé qu'il y ait un enseignement de l'ensemble du fait religieux dans l'école publique. Alors, je ne sais pas où ça en est maintenant.
Oui, mais c'est un peu un serpent de mer et ça prend toutes sortes de formes différentes. Voilà. Mais effectivement, donc, ça renvoie exactement à ce débat-là.
Ce n'est pas quelque chose qui est
forcément... Mais du coup, ce n'est pas spécifique à l'enseignement privé.
Voilà.
Ce n'est pas nécessairement spécifique.
J'ai ici une question et une autre là-bas.
Bon, je vous remercie d'abord d'avoir rappelé que l'enseignement privé prenait exactement le même pourcentage du budget de l'éducation nationale que l'enseignement public, parce que ça, les parents d'élèves du privé...
Non, pas...
Bah, si, 14% plus 4 milliards en aide locale.
Oui, mais c'est 14%, donc il reste...
Bah, 14% pour 18% des élèves. Et 4 milliards d'aides locales en plus. Non, c'est, et puis je voulais aussi rappeler que le décrochage des crucifix s'est intervenu à Montréal en 2019, quand en France c'était 1882, donc on n'est pas si mal sur tout. Non, la chose où je voulais avoir votre impression, c'est sur la République à visage découvert, quand on tolère et qu'on laisse prospérer Internet et les réseaux qui, eux, ne sont pas à visage découvert. Parce que c'est tout de même une grosse bascule qu'on a au XXIe siècle, c'est que les jeunes se disent « mais pourquoi visage découvert ?» quand ils travaillent sous pseudo.
C'est une analogie intéressante entre le visage découvert et l'anonymat des réseaux sociaux. Bon, moi, je suis navrée, je ne suis pas vraiment capable de vous répondre parce qu'alors vraiment, cette question de la liberté d'expression sur les réseaux, ce n'est pas une question sur laquelle j'ai travaillé, mais je trouve l'analogie... je vois très bien l'analogie que vous faites, je la trouve intéressante. Mais je suis vraiment navrée, mais je n'ai pas d'éléments de réponse.
On a l'habitude de présenter la loi de 1905, enfin la laïcité, comme étant le principe de séparation de l'Église et de l'État. Ça a été vrai jusqu'en 2021, mais on continue toujours à dire que c'est le principe de séparation de l'Église et de l'État, puisque depuis 2021, l'État se donne le droit de regard sur
le discours qui est tenu dans les établissements cultuels et confessionnels, je ne me souviens plus des termes exacts de la loi, mais l'État maintenant peut faire fermer une mosquée, un lieu de culte, quel qu'il soit, je dis mosquée mais quel qu'il soit, et peut également faire fermer une école, et c'est ce qui pourrait menacer l'école Averroès à Lille, et peut-être Stanislas, on ne sait jamais. Donc, est-ce qu'on peut encore parler de séparation de l'Église et de l'État ?
On touche au problème des lois de la République et des lois des cultes.
Alors, je ne sache pas qu'on soit revenu sur le principe de séparation des Églises et de l'État. Cela étant, une chose qui est assez intéressante, c'est qu'en fait... Alors, effectivement, souvent, on dit la laïcité, c'est la séparation. En réalité, je pense que la laïcité a besoin d'au moins trois éléments pour être... Enfin, il y a au moins trois dimensions de la laïcité. Il y a la séparation des Églises et de l'État, il y a la garantie du libre exercice du culte, et il y a la neutralité de l'action publique. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'évolution autour de ces trois pôles de la laïcité ? On voit que la neutralité a tendance à prendre sans cesse plus de place. On ne parle que de neutralité, puis d'ailleurs on ne parle plus seulement de neutralité de l'action publique, mais on parle aussi de la neutralité des personnes privées dans toute une série de circonstances. Et plus la neutralité grossit, plus d'une certaine manière les deux autres pôles du triangle de sens de la laïcité sont affectés. Et notamment la séparation des Églises et de l'État. Vous faites référence à la loi de 2021, la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République. Moi, ce que je trouve très frappant, c'est plutôt qu'on est beaucoup revenu dans cette loi sur le statut des associations cultuelles, qui sont les associations par lesquelles les cultes s'organisent. Et on a vraiment accru, avec la loi de 2021, le droit de regard des autorités publiques, et notamment du préfet, sur les modalités d'organisation interne des associations cultuelles. Et puis, il y a une sorte de mécanisme qui fait que désormais, tous les 5 ans, le préfet peut décider de revenir sur cette... qualification d'association cultuelle. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait que, je dirais pas qu'on est revenu sur la séparation, mais néanmoins, plus on se focalise sur la neutralité, plus ça peut se faire au détriment ou dans la fragilisation du principe de séparation. Néanmoins, les exemples que vous donnez, je les rangerai pas exactement dans la même catégorie. Par exemple, ce qui se passe au lycée Averroès n'a rien à voir avec la loi de 2021. C'est, à ma meilleure connaissance, un usage inédit du retrait d'un contrat d'association d'un établissement privé à l'État qui est éminemment problématique parce qu'il semble reposer à titre principal sur un rapport fait par la Cour régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France, qui n'a aucune capacité, aucune compétence particulière en matière de contrôle pédagogique ou autre des établissements d'enseignement. Et donc là, je crois qu'on est vraiment plutôt dans ce qu'on évoquait il y a quelques instants, qui est un énième signe des anxiétés et d'une forme des anxiétés liées à l'islam et d'une forme d'inégalité dans la manière dont l'action publique se déploie par rapport aux différentes confessions. Parce que, en plus, la concomitance entre les informations qui ont été rendues publiques sur le lycée Averroès et celles qui ont été rendues publiques sur le lycée Stanislas est quand même assez édifiante, notamment quand on prend la mesure de ce que, quelques semaines après la publication du rapport sur Stanislas, qui documente des violations très graves du contrat d'association avec l'État, la ministre de l'Éducation nationale, dans une émission de radio que j'ai entendue, indiquait qu'elle n'avait pas de suite à donner puisque l'inspection générale avait fait toute une série de recommandations et que donc l'établissement n'avait qu'à suivre les recommandations. Donc évidemment, le contraste avec ce qui se passe au lycée Averroès où pour des violations qui semblent moindres du contrat, on est directement à une mesure inédite de retrait du contrat, c'est tout à fait édifiant.
Mais qu'en est-il de l'ensemble de tous ces enseignants qui disent s'auto-censurer lorsqu'il s'agit d'enseigner certains aspects de l'histoire de France, certains aspects d'avancées scientifiques de la part d'élèves avec oui, derrière, bah, je crois que, bon, là encore, je veux dire, les moi, parents je suis pas, ou les... Qui...
Moi, je ne suis pas sociologue de l'éducation. Je crois que ça a toujours existé. Hein, pour ah le oui. coup, si on veut exalter, si on veut exalter l'école comme lieu d'éducation à la citoyenneté, au débat, à la contradiction... je veux dire, la contestation est une valeur démocratique. Hein,
d'accord.
Ou plus exactement, l'absence de contestation, en général, signe un mauvais présage pour la démocratie. Alors, je ne veux pas, par ces propos, ignorer un certain nombre de témoignages qui existent, etc. Mais moi, je n'en ai pas de mesures scientifiques.
Non, hein, mais tout n'est pas scientifique.
Non, mais là, en l'occurrence, vous me demandez quand même mon avis comme chercheuse. Je ne vais pas vous donner mon avis, on n'est pas au café. Donc,
On n'est pas au café. Mais néanmoins, il y a quand même de plus en plus d'enseignants qui témoignent de ça, de cette difficulté
à enseigner. Je ne sais pas s'il y a de plus en plus d'enseignants qui témoignent de ça. Précisément, je ne le sais pas.
Il y a une question sur le chat qui décentre un petit peu le problème, loin des questions d'enseignement, mais les questions scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques à l'Union rationaliste, qui dit est-ce que la laïcité doit interdire que des théories scientifiques qui sont développées à partir de religions, est-ce qu'elles doivent être interdites? Voilà. Est-ce qu'il faut bloquer des théories scientifiques qui sont imprégnées par l'idéologie religieuse.
Alors, je ne suis pas sûre de savoir à quoi exactement il est fait référence, mais le principe de laïcité n'est pas là pour interdire. C'est pas la vocation première du principe de laïcité. Le principe de laïcité, à la rigueur, il interdit à l'action publique de faillir à l'obligation de neutralité religieuse, c'est-à-dire de véhiculer des normes religieuses, de favoriser des cultes au détriment d'autres, de traiter inégalement les citoyens. Mais ce n'est pas un principe d'interdiction substantielle ni de pratique scientifique.
Je ne sais pas si la loi française a pour objectif de promouvoir l'universalisme dans la rédaction de ces lois, mais comment fait-elle, par exemple, en ce qui concerne la France, pour rendre cohérence le chorus qui fait déficit entre les musulmanes du Nord et les musulmanes du Sud? C'est pas du tout pareil. Vous avez en Iran des femmes qui demandent, se font même assassiner, pour ne pas porter le voile, et d'autres qui, au contraire, revendiquent le voile comme étant un outil d'émancipation.
Alors, revendiquer le voile comme un outil d'émancipation, ou en tout cas revendiquer la liberté de le porter. Voilà. Oui, bah effectivement, c'est-à-dire le positionnement par rapport à la loi, c'est effectivement, si on est soucieux de la liberté des femmes, on est soucieux, éminemment soucieux, du fait qu'elles ne se voient pas imposer le port de signes religieux, tout comme on peut être soucieux du fait qu'elles ne se voient pas interdire de porter des vêtements religieux.
On peut donner des exemples personnels. Moi, je connais quelqu'un, une femme musulmane, qui me dit si je ne porte pas mon voile dans le couloir de mon immeuble, c'est terminé pour moi. Donc, où est l'émancipation ?
Mais il y a dans le droit français des textes, des dispositifs qui permettent de protéger les personnes contre les pressions qu'elles subissent à raison de la religion. Et c'est des dispositions qui existent depuis 1905. Il y a la police des cultes, c'est les articles 30 et 31 et suivants de la loi de 1905, qui permettent absolument de protéger les individus contre les pressions qu'elles subiraient à raison de leur religion.
Il y a même des amendes sévères. Oui. Ah, je ne dis pas que c'est facile à pratiquer, mais la loi est là.
Je reviens peut-être une nouvelle fois. Alors là, je change de casquette. Je prends la casquette qui a été la mienne pendant 40 ans, c'est professeur de lycée. Voilà. J'ai pendant 40 ans enseigné dans des lycées publics. Il me semble, à vous entendre, que la question de la laïcité, si elle fait l'objet de tant de polémiques, de tensions, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'elle recouvre systématiquement, il me semble, d'autres questions. En entendant Madame tout à l'heure, je pensais à la concurrence des deux écoles dans le lieu où j'ai enseigné pendant 17 ans, à Antony. La concurrence entre le lycée Descartes d'Antony, où j'ai exercé longuement, et puis Sainte-Marie d'Antony. Voilà. Et je faisais passer le baccalauréat à Sainte-Marie. J'étais éblouie par l'état des locaux par rapport à ceux du lycée Descartes où j'ai enseigné 17 ans. Et sur l'inégalité sociale, culturelle, économique des deux lieux, je peux témoigner. Et cela pour dire à madame tout à l'heure, pourquoi ne mettons pas en avant d'abord la question sociale, la question économique, plutôt que de se cacher derrière... Oui, merci. De se voiler derrière des questions plus idéologiques ou des questions de laïcité. Voilà. Et il me semble que là, on tient quelque chose de fondamental. Le culturel, le social, l'économique sont prédominants dans ces questions-là. Voilà. Et la laïcité me semble un voile, c'est une très belle formule, pour masquer toutes ces réalités.
Même les hélicoptères se tombent par terre à cause de quand le ciel est voilé.
Je crois que madame voudrait rebondir. Juste un mot de
réponse. Oui, mais alors rapide, parce que c'est la dernière.
Pas de problème, je ferai brièvement. J'entends extrêmement bien ce que vous dites. Mes enfants sont dans le privé. C'est un choix que j'ai fait pour des raisons confessionnelles. Je l'assume et je le dis clairement. Économiquement, c'est un sacrifice énorme. Mais il se trouve que lorsque je n'ai plus réussi à payer la scolarité de mes enfants dans le privé, je n'ai eu qu'à le dire et on m'a exonérée de payer la scolarité. Il ne faut pas oublier que dans le privé catholique, dans de nombreux établissements, même si je suis tout à fait consciente que ce n'est pas le cas dans tous, il suffit de dire « je n'ai pas les moyens ». Et il y a un fonds, une égale, pour que tous les enfants, quel que soit leur statut socio-économique, puissent accéder à l'enseignement, justement dans des locaux qui sont magnifiques, effectivement, et où bien souvent les enseignants manquants sont remplacés dans les 24 heures. Je vous le concède, ce sont des conditions luxueuses. Mais voilà, l'économie n'est pas toujours le premier des critères.
Merci. Je crois que maintenant, il est l'heure de... Malheureusement, on aurait pu encore continuer. Parce que je crois que c'est très riche. Je voudrais juste, avant de terminer, annoncer la prochaine carte blanche, 18 juin prochain, qui sera donnée par François Héran, qui est professeur au Collège de France et président de l'Union rationaliste. Le thème sera « L'Église et les Lumières ». Vous voyez, face à la mortalité des enfants, le moment de Condorcet. Il y aura un résumé d'ailleurs sur le site. Vous pouvez commencer à vous inscrire dès demain. La réservation se fait sur le très beau site de l'Institut d'astrophysique de Paris, que je remercie encore une fois. Et pour terminer, d'abord je vous remercie d'être venu et de votre présentation. Et je voudrais vous donner le mot de la fin. Si vous avez quelque chose à ajouter pour terminer.
Ben non, merci beaucoup pour un échange très, très riche et merci de votre accueil.